Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Uramine. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Vous avez déjà certainement entendu ce slogan publicitaire, ou vu à la télé, c'est celui d'Areva. Mais avec le dossier Uramine, le géant français du nucléaire aurait sans doute préféré que l'histoire s'arrête plus tôt et qu'elle ne s'écrive pas à coups de révélations fracassantes dans la presse. Car depuis qu'elle a été rendue publique en 2011, l'affaire du rachat de la société minière Uramine par l'entreprise publique Areva pour un peu plus de 2,5 milliards d'euros alimente chaque jour les soupçons. S'agit-il d'un monumental accident industriel ? Et seulement cela, autrement dit, y a-t-il eu conflit d'intérêts ou délit de négligence de la part des responsables d'Areva et de sa présidente d'alors, Anne Lauvergeon ? Ce ne sont que des questions, bien sûr, mais comment justifier l'achat à prix d'or de mines d'uranium en Afrique avec de l'argent public, de surcroît, si celle-ci se révèle inexploitable, et même totalement inexploitable ? À l'image de l'extravagante affaire des avions renifleurs qui s'était soldée par un gouffre financier pour Alpha Aquitaine dans les années 70, l'affaire Uramine pourrait faire couler Areva et le cas échéant, c'est l'État qui réglerait la facture. Après le récit, nous entendrons les éclairages et précisions de Jean-Louis Pérez, journaliste et producteur à Grand Angle Production, ancien grand reporter à l'agence Kappa. Il est l'auteur d'une enquête sur le dossier Uramine. Il en a publié un livre intitulé « Anne Lauvergeon, le pouvoir à tout prix » paru en 2014 aux éditions du Seuil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Quartier d'affaires de la Défense, Paris, vendredi 17 juin 2011. Il souffle un vent frais sur la capitale et dans l'une des plus hautes tours de verre qui jalonnent la grande esplanade, souffle aussi le changement. Nous sommes ici chez Areva, numéro 1 mondial dans le domaine du nucléaire et fleuron de l'industrie française. Aujourd'hui est un jour symbolique dans l'histoire de l'entreprise, car le changement, c'est maintenant. On s'apprête en effet, et pour la première fois, à changer de président. La veille, l'État a décidé de ne pas reconduire Anne Lauvergeon à son poste de présidente. Après 10 ans de bons et loyaux services, Atomique Anne, comme on l'a surnommée, emblématique fondatrice du groupe Areva en 2001, est donc déchue de son titre, de son poste et de ses fonctions. Un drame pour celle qui, depuis plusieurs mois, était, selon certains cadres d'Areva, plus omnubilée par sa reconduction à la tête de l'entreprise que par sa gestion de l'entreprise elle-même. Dans le journal Les Échos, on vante le parcours et la gouvernance atypique d'Anne Lauvergeon, première femme à diriger un grand groupe industriel français et à mener de front d'importants chantiers qui portent avec fierté les intérêts du pays à travers le monde. Interrogée par des journalistes au pied de la tour, dans le quartier de la Défense, de nombreux employés regrettent aussi le départ précipité de celle qui est, selon eux, une partie de l'âme du groupe Areva. De leur côté, des représentants des syndicats font part de leurs craintes pour l'avenir de leur entreprise, car Anne Lauvergeon assurait la stabilité. Alors, pourquoi l'État a-t-il décidé de ne pas la reconduire à son poste ? Officiellement, Matignon affirme que la démarche du gouvernement s'inscrit dans la tradition, un changement en douceur. En déplacement à Berlin, le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, tente lui aussi de minimiser l'impact de ce changement de présidence, parlant d'une simple affaire de continuité.
Madame Lauvergeon a fait 2 mandats, 10 ans à la tête d'une entreprise. C'était la fin de son mandat. Le gouvernement a pris la décision de nommer à la tête de l'entreprise le numéro 2 de l'entreprise. Il y a donc de la continuité.
C'est donc le numéro 2 d'Areva, Luc Courcel, déjà membre du directoire du groupe et jusqu'alors patron de la branche réacteur, qui est désigné pour remplacer Anne Lauvergeon comme président exécutif d'Areva. Mais officieusement, ou dans les coulisses des ministères, voire de l'Élysée, il se dit plutôt qu'Atomique Anne est tombée en disgrâce depuis plusieurs mois. Considéré comme un élément devenu difficile à gérer, on lui reproche une trop grande prise de risque et une très mauvaise gestion de l'entreprise. Certes, 2011 est une année noire pour les comptes de la filière nucléaire en général. Fukushima est passé par là. Mais les véritables reproches portent sur certaines décisions stratégiques maladroites qui ont pénalisé l'entreprise. Premier grief, le gouffre financier des chantiers de l'EPR. Cette centrale nucléaire de troisième génération, dont la présidente d'Areva vantait les mérites dans le monde entier et qu'elle a vendue aux Finlandais avant même que les travaux du premier réacteur français à Flamanville ne soient terminés, ont grévé les comptes. Depuis plusieurs années, Areva paie la facture et les pénalités de retard sur le second chantier en Scandinavie. Des travaux dont le prix a grimpé de 100% et dont la mise en service n'est pas prévue avant 2018. Joue aussi en sa défaveur le fiasco de l'appel d'offres sur le nucléaire à Abu Dhabi en 2009. Un épisode symptomatique de la guerre des chefs, de la guerre d'ego qu'entretenait la présidente d'Areva avec celui qu'elle qualifiait de rival, Henri Proliot, le PDG d'EDF. Bilan des opérations, la France, archi-favorite, laisse échapper un contrat de 20 milliards de dollars au profit de la Corée du Sud. Un échec commercial et diplomatique sur toute la ligne. Mais ce qui sans doute a pesé le plus lourd dans le choix du gouvernement de ne pas reconduire Anne Lauvergeon, ce sont bel et bien les comptes de l'entreprise publique. Certains analystes estiment que pour la première fois depuis sa création en 2001, les résultats vont plonger dans le rouge. Des estimations théoriques qui vont se révéler en réalité plus dramatiques encore, 6 mois plus tard, nous sommes alors en décembre 2011.
France Inter.
Réaction en chaîne pour Areva. Fukushima a contraint le groupe nucléaire public à ravaler ses ambitions. L'Allemagne, de son côté, a choisi de sortir du nucléaire. Demain, Areva devrait annoncer des pertes financières importantes. Le PDG du groupe, Luc Courcel, arrivé au mois de juin, devrait également dévoiler un plan de suppression de postes, probablement le plus sévère depuis la création du groupe il y a 10 ans. Les réductions d'effectifs devraient surtout concerner l'Allemagne.
Le lendemain, le 12 décembre 2011, Areva confirme par communiqué de presse qu'elle essuie des pertes historiques de 2,5 milliards d'euros. C'est la première fois de son histoire que l'entreprise publique ne dégage pas de bénéfices et surtout, elle lance un plan de restructuration pour économiser plus d'un milliard d'euros sur 5 ans. La cause de ses résultats pour le moins décevants, comme ses concurrents dans le secteur du nucléaire, Areva fait face à la baisse des perspectives d'activité consécutives à l'accident de Fukushima. Certes, mais à la différence des autres acteurs du milieu, Areva paie aussi les pots cassés dans un autre dossier que le géant français de l'atome pensait avoir enfoui suffisamment pour qu'il ne refasse jamais surface. Ce dossier, c'est Uramine. Uramine, un nom jusque-là inconnu du grand public et qui va très vite susciter l'intérêt des journalistes. Comme ici sur France Info, quelques jours plus tard.
Luc Courcel, président du directoire d'Areva, revenons à vos pertes, hein, ce qui grève vos résultats, cette Uramine. Alors rappelons-le, une mine d'uranium que vous avez achetée en Afrique pour 1,7 milliard en 2007. Aujourd'hui, vous estimez sa valeur à 400 millions. Bref, vous avez perdu 1,3 milliard. Comment s'explique une telle inconséquence?
Alors, inconséquence, n'employons pas ce mot-là. Je pense qu'il faut parler...
Quel mot utilisez-vous?
Écoutez, c'est incontestablement une opération qui pèse très lourdement sur nos comptes pour les raisons suivantes. Nous avons acquis cette mine, et puis il faut bien le dire que nous avons été déçus par le niveau des réserves que nous avons trouvées par rapport à nos attentes.
Moitié moins.
Il y a un audit interne qui a été effectué par Areva et qui conclut qu'il n'y a pas eu de fraude, pas d'escroquerie, mais des dysfonctionnements, des erreurs de la direction. À quel niveau, d'où viennent ces erreurs?
Si vous voulez, moi je ne m'intéresse pas au battage médiatique qui a eu lieu. Je pense qu'il ne sert pas l'entreprise et je dirais même que la principale victime de ce battage médiatique, c'est l'entreprise Areva.
Il n'y a donc pas de responsable?
Mais écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de chercher les responsabilités.
Oui, mais nous, hein. Ça nous intéresse.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de tirer les enseignements et de faire en sorte qu'un épisode aussi douloureux pour l'entreprise ne se reproduise pas.
Si publiquement, Luc Courcel, que vous venez d'entendre, tente de minimiser l'affaire Uramine et affirme que toutes les dispositions ont été prises en interne pour corriger l'erreur, en privé, il se dit que le nouveau président d'Areva est furieux. Oui, furieux de découvrir le cadeau empoisonné que lui a légué Anne Lauvergeon. Car chez Areva, si certains savaient pour la bombe à retardement qu'était Uramine, d'autres, au contraire, malgré des postes à très haute responsabilité, semblent avoir été tenus à l'écart de certaines étapes et de certains aspects, disons, troubles du dossier. Alors, quels sont les éléments qui rendent le dossier Uramine si explosif? Et comment Areva, numéro un mondial du nucléaire, porte-étendard des intérêts industriels français, s'est-il retrouvé empêtré dans cette affaire? quel est le rôle exact également d'Anne Lauvergeon et des dirigeants de l'entreprise dans ce fiasco industriel? C'est à l'automne 2006, dans les bureaux parisiens d'Areva, que commence cette liaison qui se révélera tragique avec l'entreprise Uramine. À cette époque, l'énergie nucléaire connaît un essor. Pour assurer le développement serein de la filière, il faut encore et toujours plus d'uranium, un métal lourd et radioactif, principal combustible des réacteurs dans les centrales. Mais l'uranium est un minerai rare et son prix sur le marché bat à cette époque des records. Au même moment, la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon, réfléchit à un plan stratégique pour faire de l'entreprise française le leader mondial du nucléaire civil. Elle déploie donc toute son énergie pour diversifier et surtout sécuriser ses sources d'approvisionnement du précieux combustible. Le contexte est donc favorable à l'investissement, comme l'explique, après coup, le député PS Marc Gouard, rapporteur de la mission d'information parlementaire sur Areva.
On était dans un moment de folie. Certains l'indiquaient, une pénurie d'uranium, parce qu'il y avait notamment une mine au Canada qui était noyée. En plus, Anne Lauvergeon s'était vue refuser le rachat d'une mine en Australie et elle avait, je pense, le souci de sécuriser ses approvisionnements. Donc, à partir du moment où l'opération australienne avait échoué, elle a commencé à rechercher une nouvelle acquisition, une nouvelle proie, et elle est tombée sur Uramine.
Créée en 2005, Uramine est une jeune entreprise quasi inconnue dans le monde du nucléaire. Elle est propriétaire de trois principaux gisements d'uranium sur le continent africain pourtant, en Namibie, en Afrique du Sud et en Centrafrique. Élément troublant cependant, et qui aurait dû d'emblée alerter les dirigeants d'Areva, Uramine n'a jamais extrait le moindre gramme d'uranium de ses gisements. Du reste, ses mines n'ont jamais été certifiées. De plus, si sur le papier Uramine est une entreprise canadienne cotée en bourse à Toronto, elle n'a pas de véritable domiciliation. Pour certains, elle est basée en Afrique du Sud, pour d'autres, au Canada, quand son immatriculation, elle, est enregistrée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. Enfin, et c'est là l'un des points qui aurait dû alerter aussi les dirigeants d'Areva, l'un des dirigeants d'Uramine est sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par la Corée du Sud pour fraude. Pourtant, et malgré cette liste de points préoccupants, personne chez Areva ne s'alerte. Au contraire. À la fin de l'année 2006, Anne Lauvergeon fait du rachat d'Uramine sa priorité. Et c'est pour arriver à cette fin qu'elle fait nommer à la tête de la direction du développement des mines d'Areva un individu totalement étranger à l'entreprise. Cet homme, c'est Daniel Wouters, un banquier d'affaires franco-belge dont le CV est entaché d'activités troubles en Afrique centrale. Et selon la volonté d'Anne Lauvergeon, M. Wouters pilotera désormais les négociations entre Uramine et Areva jusqu'à ce que celles-ci arrivent à leur terme. Il se dit déjà en interne que Madame la présidente du groupe a pris sa décision. Areva rachètera Uramine, quoi qu'il en coûte. Dans les affaires, à ce niveau de compétence et surtout à ce niveau d'investissement, on aurait pu s'attendre à ce qu'Areva prenne son temps et toutes les précautions d'usage pour garantir son achat. Le géant français du nucléaire possède d'ailleurs des experts géologues parmi les plus réputés au monde. Et pourtant, autre élément troublant, dans le cadre du rachat d'Uramine, Areva ne fera pas appel à leur expertise pour analyser les gisements africains. Comme en témoigne Jean-Pierre Milesi, directeur de l'exploration Afrique-Europe Areva, face à la caméra de Pascal Henry, pour son documentaire Areva 3 milliards en fumée, diffusé sur France 3 en décembre 2014 et produit par TAC Press.
Quand les géologues ont été appelés, c'était déjà bien engagé au niveau des discussions et au niveau... du processus d'acquisition. Il n'y avait plus la possibilité d'aller visiter les gisements. Or, pour un géologue, ne pas voir un gisement, c'est examiner le catalogue La Redoute. Hein, vous voyez le catalogue, c'est beau, c'est bien, mais vous ne pouvez pas toucher le produit.
Est-ce que c'était... On vous a interdit du côté d'Areva d'aller sur le
non,
site?
Non, on nous a dit que c'était trop engagé, c'est trop tard et qu'on on aurait le temps de voir les zones en question après.
En interne, les géologues d'Areva allument immédiatement un voyant rouge à l'adresse de leur direction. Dans une note très critique adressée directement à leur présidente, ils notent dès octobre 2006, et je les cite, que s'il semble exister un potentiel pour certains gisements, il subsiste aussi de fortes incertitudes autant sur le volume des ressources que sur leur accès. Autrement dit, si les géologues ne ferment pas la porte à un rachat d'uramine, ils se montrent pour le moins sceptiques. Et pour cause, comble de l'amateurisme ou du conflit d'intérêts. Les chiffres d'expertise Bigné sur lesquels s'appuie Areva pour mener les négociations lui sont fournis par un cabinet d'audit du nom de SRK, le même cabinet que la société Uramine a mandaté pour expertiser ses propres gisements. La découverte de ce nouvel élément aurait dû une fois de plus alerter Areva, comme l'explique Marc Échinger, détective privé mandaté plus tard par la direction du patrimoine d'Areva pour enquêter sur le processus de rachat.
Moi, je pense qu'il y a un faisceau d'indices, c'est ce que j'indique dans mes rapports, il y a un faisceau d'indices qui doivent conduire les dirigeants d'Areva à s'interroger davantage. Quand vous avez des doutes sérieux, vous devez au minimum chercher un peu plus.
Chercher un peu plus, ce n'est pas l'avis de la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon, pour qui, en cette fin d'année 2006, il faut aller vite dans le rachat d'Uramine. Et malgré une nouvelle mise en garde provenant de ce géologue, la patronne d'Areva décide d'accélérer les tractations. Cette précipitation, alliée à une très mauvaise approche du dossier, va déboucher sur un achat à prix d'or et un fiasco commercial pour l'entreprise française. Les chiffres parlent. Alors que le capital d'Uramine est estimé à 471 millions d'euros par ses propres dirigeants, Areva va dépenser 2,5 milliards d'euros, soit 5 fois plus pour racheter l'entreprise canadienne. La raison de ce décalage entre le prix estimé et le prix payé par Areva, elle est abracabrantesque, pour reprendre un célèbre adjectif présidentiel, car ce n'est ni plus ni moins qu'Areva, l'acheteur, qui fait gonfler lui-même le prix de la transaction. Comment ? Bien tout simplement en annonçant au mois de mars 2007 le rachat brutal de 5,5% du capital d'Uramine avant d'en acheter la totalité 3 mois plus tard. Entre-temps, le titre Uramine bondit en bourse. Une opération extrêmement lucrative pour ses dirigeants, mais un choix de management catastrophique pour Areva. Comme l'expliquera plus tard Sébastien de Montessu, ex-directeur des activités minières du groupe.
Si on regarde a posteriori, en achetant 5,5% d'Uramine avant d'en acquérir la totalité 3 mois plus tard, Areva a fait un truc absolument surréaliste. Elle a elle-même créé les conditions pour payer plus cher que ce qu'elle n'aurait dû. Bien évidemment, tous les investisseurs se sont rués sur le titre. C'est vrai que le cours de l'uranium était à la hausse, mais cette opération a quasiment doublé la valeur du titre Uramine et donc fait grimper la valeur de l'entreprise.
Et c'est ainsi que le 30 mai 2007, le conseil de surveillance d'Areva, entreprise française publique, rappelons-le, autorise son directoire, dirigé par Anne Lauvergeon, à acheter via une OPA amicale 100% des titres d'Uramine pour la somme faramineuse de 2,5 milliards d'euros. Cherchez l'erreur. Bien, maintenant comment le conseil de surveillance d'Areva, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, a-t-il pu accepter une telle opération ? La réponse est encore une fois surprenante. On lui a tout simplement menti. Oui, dans cette affaire, on a menti à l'État sur certains détails de l'investissement. D'autre part, les dirigeants du groupe emmenés par Anne Lauvergeon et Daniel Wouters s'oublient de présenter au conseil de surveillance et donc à l'État les différents documents que leur ont envoyés les géologues d'Areva. Documents qui émettent de sérieux doutes sur les prévisions d'exploitation de l'uranium. D'autre part, et plus grave encore, on sait aujourd'hui, à la lumière des témoignages de cadres de l'entreprise, qu'Areva aurait dénaturé le rapport de ses analystes, celui-là même qui a été remis au conseil de surveillance pour valider l'opération. Sur ce dit rapport modifié, ont été retirées les mentions pessimistes concernant le déficit d'informations sur l'état des mines, sur la nature des travaux à engager ou encore sur l'instabilité politique des zones concernées. Diamétralement opposé à l'original, il se conclut sur ces mots: comment acheter Uramine ? Une pratique que la justice a l'habitude de dénommer sous la formule « faux » et « usage de faux ». Toujours est-il qu'au début de l'été 2007, Anne Lauvergeon et Areva sont les heureux propriétaires d'Uramine et de ses 3 gisements d'uranium en Afrique. Enfin, ils se croient heureux. Car un peu comme au théâtre, c'est dans le second acte qu'on prend conscience de l'intrigue avec son cortège de surprises.
L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva.
Mm-hmm.
Janvier 2016, désert d'Erongo. Nous sommes en Namibie, au sud du continent africain, à quelques centaines de kilomètres de toute forme de civilisation. Ici, au bord de la route, il y a du sable, beaucoup de sable, il n'en manque pas, mais pas grand-chose d'autre. Après plusieurs heures de route, on aperçoit enfin un long grillage qui ceinture une large parcelle de terrain. Il s'agit du site minier de Trékopié, l'un des trois gisements rachetés par Areva à Uramine. Selon les estimations d'Areva, Trékopié devait produire 36 000 tonnes d'uranium sur une période de 12 ans, soit la moitié de la consommation des 430 réacteurs nucléaires dans le monde. Pourtant, à bien y regarder, à part une barrière et une guérite, il n'y a rien. Non, pas de véhicules qui vont et viennent depuis le cœur de la mine. À part un gardien, il n'y a aucune autre trace de vie aux alentours. Et pour cause, après avoir procédé à d'importants travaux, Areva s'est retirée du site, bien consciente que les teneurs d'uranium de la mine étaient trop faibles pour être exploitées. Selon les chiffres de ces géologues, cette teneur est 5 fois inférieure au rebut des anciennes mines du Limousin, c'est dire. Et pourtant, on le savait, comme l'affirme Didier Julien, stratège en ressources naturelles.
Lorsqu'en 2007, les mines sont rachetées, ces territoires ont déjà été répertoriés et explorés par des chercheurs français, de la COGEMA, du CEA et d'autres sociétés qui ont été actives dans l'uranium depuis les années 50. Il existe un livre, eh bien, il est très clairement indiqué que certains gisements étaient soit inexploitables parce que la géologie fait que nous n'avions pas la technique pour pouvoir séparer l'uranium d'autres éléments, soit ils étaient trop pauvres pour qu'on puisse récupérer cet uranium. Donc ça n'était pas des gisements inconnus.
En Afrique du Sud et en Centrafrique, là où se trouvent les deux autres gisements achetés par Areva et Uramine, le constat est le même. Dans le cas de la mine sud-africaine, c'est même pire, il n'y a tout bonnement rien à exploiter. Pire encore, l'expérience Uramine n'est pas le premier grand coup d'épée dans l'eau pour Areva en Afrique. Au Niger, dans la mine d'Imouraren, même tableau, Areva achète au prix le plus cher, présente la mine comme un joyau, puis la met en sommeil. D'où les interrogations de William Bourdon, avocat, président de l'association humanitaire Sherpa, créée en 2001 pour protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques.
J'ai été sur place à Imouraren, les déclarations étaient tonitruantes pour annoncer un gisement exceptionnel. Beaucoup d'acteurs africains sur place étaient assez sceptiques, soulevaient toute une série de questions sur la pertinence de ce gigantesque investissement. Et puis, à nouveau, des questions sur la pertinence de cet investissement, du taux de rentabilité annoncé. Et donc, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un modus operandi calamiteux global qui aurait conduit une équipe de personnes, qui aurait mené des opérations d'investissement considérables sans pertinence économique. Si tout ça est vrai, ça serait évidemment d'une très grande gravité.
Des propos qui confirment qu'Areva a investi des sommes considérables pour des investissements sans intérêt avec l'argent public. Mais revenons au cas d'Uramine et concentrons-nous sur le site namibien de Trékopié, car c'est ici qu'on découvre une autre facette du scandale. En novembre 2008, un an après l'achat de la mine, le service de géologie d'Areva envoie une note à sa présidente, Anne Auvergeon, note dans laquelle les experts confirment ce que beaucoup déjà chez Areva pensaient, à savoir que la mine namibienne ne vaut pas un clou. Pour autant, Anne Auvergeon ne présentera jamais ce document ni aux auditeurs ni aux commissaires aux comptes du groupe. Cet élément est indispensable pour comprendre la suite de cette affaire. On sait déjà en 2008 chez Areva que l'investissement Uramine est un fiasco. Bien. Pourtant, plutôt que de se limiter aux pertes financières liées à ce mauvais investissement, Anne Auvergeon adopte, en toute connaissance de cause, une autre stratégie. À la surprise des géologues, elle lance des investissements supplémentaires et considérables sur le site. On parle ici de plus d'1 milliard d'euros. Au programme, une gigantesque usine de dessalement d'eau de mer, car pour extraire l'uranium, il faut d'importantes quantités d'eau douce, une flotte de camions neufs, la construction d'une usine de traitement de minerais. Au total, en plus des prix d'achat initial de 2,5 milliards d'euros, il faut ajouter le coût de ces travaux, ce qui porte l'ensemble à près de 3,5 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, cette somme correspond en 2011 aux dépenses d'investissement et de fonctionnement de la région Île-de-France sur un an. Alors, pourquoi investir dans un site minier qui apparemment ne vaut rien ? La réponse est encore une fois bien surprenante. En effet, tant qu'Areva continue d'investir en Namibie, elle n'est pas contrainte de déprécier la valeur des mines qu'elle a achetées. Personne ne peut donc savoir qu'elles ne valent rien. Au contraire, si Areva investit, cela donne l'impression qu'elle s'apprête à y extraire de l'uranium. Et pour Arnaud Vergeon, c'est une manière, peut-être, de rester dans la course à sa propre reconduction. Malgré les nombreuses critiques en interne et l'ambiance glaciale qui règne lors des réunions du Conseil, Arnaud Vergeon maintient sa ligne stratégique qui consiste à retarder le plus longtemps possible la révélation de ce fiasco commercial, comme l'explique l'ancien directeur des mines de l'entreprise, Sébastien de Montessus.
J'ai la trace écrite de 122 notes ou courriels dans lesquelles, chaque fois, moi ou mes équipes avons tiré la sonnette d'alarme sur le sujet Uramine. J'ai informé très tôt Arnaud Vergeon que les actifs Uramine ne valaient pas ce qu'ils avaient été achetés et qu'il faudrait sans doute les déprécier un jour ou l'autre dans les comptes annuels de l'entreprise. Comme je revenais souvent à la charge avec mes histoires de dépréciation et de provision, elle en a eu ras-le-bol. À partir d'octobre 2010, lorsque Arnaud Vergeon a réalisé que je ne la suivais plus du tout et que j'étais maintenant prêt à faire n'importe quoi pour qu'elle accepte le sujet de déprécier la valeur d'uramine dans les comptes, nos rapports se sont tendus.
Résultat, pour l'année 2010, Areva publie les ressources officielles de la mine namibienne très copiées avec des montants correspondant à ceux de 2007. Le groupe ne fait donc aucune provision pour la possible et attendue dépréciation. Un tour de passe-passe dans les comptes qui inquiète en interne de très hauts responsables du groupe. L'affaire Uramine devient alors une affaire de faux bilans et de publication de comptes inexacts présumés. Plusieurs réunions secrètes ont lieu entre Gérard Darbola, directeur délégué général du groupe, Jean Huby, directeur de la stratégie, et Sébastien de Montessus, directeur des mines, pour faire le point sur les possibles risques judiciaires encourus par la présidente et les membres du directoire, tous dépositaires des comptes d'Areva. Il faut attendre le mois de décembre 2011 pour que la véritable valeur des mines apparaisse enfin dans les comptes d'Areva, créant du même coup une très forte dépréciation du titre et un trou vertigineux de plus de 2,5 milliards d'euros dans les caisses du géant du nucléaire. Alors, à la tête d'Areva, Luc Courcel mandate un enquêteur privé, l'avocat Jean Reinhardt, pour faire toute la lumière sur le fiasco Uramine. Dans son rapport, l'avocat pointe les dysfonctionnements graves au niveau de la gouvernance sous la présidence d'Arnaud Vergeon. Le rapport avance même que les choses ont été organisées pour que ni le directoire, ni le conseil de surveillance d'Areva, les deux instances décisionnaires du groupe, n'aient acceptable de remettre en cause l'acquisition d'uramine. L'État, de ce côté, par l'intermédiaire de la Cour des comptes, s'interroge aussi sur les risques et les responsabilités dans cette affaire où de l'argent public a été dilapidé. En mai 2014, un pré-rapport de la Cour des comptes sur la gestion d'Areva et sous la direction d'Arnaud Vergeon souligne la concentration du pouvoir réel dans les mains de la présidente du directoire. Je cite. Et les sages de la rue Cambon concluent « Si obscures que soient certaines péripéties de l'affaire Uramine que les tribunaux ont encore à connaître, celle-ci laisse apparaître des fautes individuelles ou des manquements, ne serait-ce que des défauts de surveillance, voire de la dissimulation, certes difficile à apprécier, mais que le groupe Areva, selon les documents disponibles, n'a pas cherché à élucider. La direction d'Areva a invoqué un dysfonctionnement de la gouvernance du groupe, formule trop vague pour clore une affaire aussi grave, je cite encore. » Areva, Uramine et leurs atomes crochus, tout cela a été transmis au parquet. Une enquête pour faux usage de faux et présentation de comptes inexacts est désormais ouverte. Une bombe à retardement, nucléaire ou pas.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier Areva Uramine. Notre invité, Jean-Louis Pérez, bonjour.
Bonjour, Fabrice Drouel.
Je rappelle que vous êtes journaliste et producteur pour Grand Angle Productions et vous êtes, entre autres, vous avez fait beaucoup d'enquêtes et documentaires, mais vous êtes l'auteur du livre intitulé Anne Lauvergeon, Le pouvoir à tout prix, paru au Seuil en 2014. Vous avez donc enquêté sur cette affaire. Alors voilà, Anne Lauvergeon accablée, non pas par le récit, mais par le témoignage des uns et des autres. En même temps, voilà une dirigeante qui voulait sécuriser ses approvisionnements, et ça on peut le comprendre. Quel est son niveau de responsabilité dans cette affaire, selon vous ?
Ben, il est total. Ouais. D'abord, bravo pour la précision de votre récit, parce que ça apparaît, tout Merci. Simplement. Quand il suffit de mettre bout à bout les éléments de ce dossier, et on voit qu'Anne Lauvergeon a une responsabilité absolue dans le dossier Uramine, et même dans le dossier Areva, parce que l'entreprise aujourd'hui va mal, et aujourd'hui, Anne Lauvergeon dit c'était des décisions collégiales. Areva, on décidait ensemble. C'est pas du tout vrai. Anne Lauvergeon a décidé toute seule et parfois contre ses collaborateurs qui lui disaient, et notamment dans le dossier Uramine, de ne pas y aller, de ne pas acheter cette entreprise. Elle y a été quand même.
Alors ça veut dire que Lucourcel, par exemple, Sébastien de Montessu, qui sont ses principaux collaborateurs, directeurs de l'exploitation des mines d'Areva, à l'époque, ils ne se dédouanent pas quand ils disent cela, et vous pensez qu'ils disent vrai. C'est Anne Lauvergeon, la responsable.
Non mais alors, c'est pas noir ou blanc dans ce genre d'activité. Sébastien de Montessu a sans doute des responsabilités. Lucourcel était au directoire au moment où tout cela était en cours. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et puis après, ce qui se dit en interne, c'est pas ça. C'est simplement de dire qu'aujourd'hui, un responsable à ce niveau qui fait partie de nos élites, Anne Lauvergeon, ne peut pas se dédouaner, elle, du bilan qu'elle a. Elle ne peut pas d'un côté dire « j'ai incarné cette entreprise, c'était mon bébé » et elle s'est comportée comme ça pendant 10 ans. C'est vrai qu'elle a créé Areva, elle l'a développée, ou on croyait qu'elle l'a développée en tout cas, et puis elle l'a quittée ensuite. Elle ne peut pas dire aujourd'hui « j'y suis pour rien ». Et puis ce que vous avez raconté dans votre récit, elle a pas tout dit à son principal actionnaire, l'État. 87% d'Areva, c'est l'État. Ouais. C'est-à-dire que c'est nous. Alors, Anne Lauvergeon a pris des décisions, et puis nous, contribuables, on paye la facture. C'est pas normal, il y a un problème.
Donc vous confirmez qu'elle n'a pas tout dit, vous ?
Ah bah moi, c'est ce que mon enquête me dit, tout simplement. Il y a des documents, en plus rien n'est inventé. Aujourd'hui, ce qui est bien pour des journalistes d'investigation ou d'enquête, c'est que vous avez des emails et tout est écrit. Donc aujourd'hui, les choses sont écrites noir sur blanc et elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Ou si, elle peut le dire, elle l'a dit pendant très longtemps. Elle le dit beaucoup moins aujourd'hui parce que justement, il y a des émissions, des livres et des enquêtes journalistiques qui sont là pour dire le contraire. Et c'est important de le faire.
Donc, on peut dire que l'État français a été trompé, sciemment trompé ou pas.
Et ça pose quand même le problème des responsabilités, cette affaire Uramine, de l'État français, principal actionnaire.
Et d'ailleurs, avec toutes les entreprises publiques. Certaines. On a connu d'autres affaires terribles, retentissantes, impliquant des entreprises publiques et posant la question de la gouvernance de ces entreprises publiques. Mais revenons à Areva.
Pour Areva, dans le cas d'Areva, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des contre-vérités qui ont été affirmées en conseil de surveillance où l'État actionnaire était présent. Simplement, si on peut aussi facilement tromper l'État actionnaire, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de gestion et de prise de pouvoir de l'État. C'est-à-dire que l'État devrait être un tout petit peu plus regardant, peut-être. Parce qu'avant d'investir 3 milliards avec les investissements, comme vous le rappeliez dans votre récit, dans cette société Uramine, il faudrait peut-être surveiller un peu plus la présidente du directoire, que simplement se baser sur sa parole, sur les documents. Enfin, il y a peut-être un mécanisme de contrôle qui n'a pas fonctionné au niveau de l'État actionnaire. Et ça, ça pose un autre problème. Il y a celui d'Anne Lauvergeon, il y a celui de l'État actionnaire qui nous représente, encore une fois, nous.
Oui, c'est
l'argent parce que c'est notre argent. Bien c'est sûr. Ça, moi, qui m'embête. Anne Lauvergeon, si elle avait fait tout ça avec son argent privé, ce serait son problème. Et puis aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'en parler. Sauf que non, c'est notre argent. Et ça, ça nous pose un problème à tous parce que aujourd'hui, on en manque tous. Enfin, je veux dire, l'État manque d'argent. Et puis, Areva, c'est 10 milliards. Alors, on pourrait pourrait faire beaucoup de choses avec 10 milliards.
Bien sûr. Alors, vous connaissez peut-être Vincent Crouzet, écrivain enquêteur, auteur du livre intitulé « Radioactif ». Alors lui, par le roman et par la fiction, il fait remonter à la surface des faits réels. Hein. Il a rencontré certains protagonistes de cette affaire, lui aussi, et il s'en est confié récemment à Mathieu Aron, présentateur de l'émission sur France Inter intitulée « Secret d'info ». On l'écoute.
Ces 2 milliards ont servi à payer des commissions et des rétrocommissions à des hommes politiques étrangers et français. Alors, ce qui est assez exceptionnel dans l'affaire Uramine, c'est que c'est un contrat qui s'est structuré, qui s'est architecturé, non pas pour procéder à un achat normal, mais pour créer de la trésorerie pour payer des pots de vin. Donc c'est une affaire tout à fait exceptionnelle dans le monde des affaires contemporaines.
Voilà, un aspect qu'on n'avait pas abordé dans le récit qui mérite d'être abordé maintenant. Qu'en pensez-vous ? Rétrocommission ? Pot de vin ?
On n'a pas de preuves.
Non, bien sûr.
Et Vincent Crouzet, que je connais bien et dont le livre est excellent, n'a pas de preuves non plus. Mais oui, comme il le dit, le montage est très bizarre. Pour rappeler quand même que quand Areva achète Uramine, il y a un appel d'offres de l'Afrique du Sud pour 100 milliards d'euros, 10 réacteurs, 10 EPR. Donc Anne Levergeon est prête à tout pour obtenir cet appel d'offres, et notamment à acheter Uramine. Donc, un journal sud-africain qui en 2012 expliquait que, d'après une enquête qui avait été faite sur place, une partie de la classe politique sud-africaine avait reçu des pots de vin. Évidemment, et notamment le président de l'époque, Thabo Mbeki, le président de l'Afrique du Sud, qui gérait le pays à ce moment-là. Il a été ensuite démenti. Thabo Mbeki a démenti et a dit que c'était diffamatoire. Néanmoins, évidemment, c'est toujours pareil dans ces affaires-là. Hein. L'argent, on ne le voit pas. Après, il y a des faisceaux de présomption. C'est vrai que cette affaire-là, où est l'argent, c'est une vraie question sur laquelle on est très nombreux à avoir enquêté.
Ça a quand même des relents de France-Afrique, cette affaire-là, non ?
De France-Afrique,
de cette tradition.
Sais pas.
Bah, écoutez, on est là, mais nous aurons marché en Afrique, on parle. Alors évidemment, ce sont des pots de vin supposés, hein, bien sûr, supposés. On n'a aucune preuve et on ne le dit pas, on ne l'affirme pas. Enfin, cette... ça rappelle des choses quand même, non ? Est-ce qu'on est là ?
C'est sûr qu'il y a une partie des choses qui est faite de manière totalement obscure. Et c'est vrai que c'est plus facile de le faire en Afrique parce que les mécanismes de contrôle sont beaucoup moins importants qu'ici en France. Je ne sais pas si on est dans un cadre de France-Afrique ou simplement de dirigeants qui effectivement pensent qu'ils ne vont pas être embêtés à faire leurs affaires très loin de chez nous. Je ne sais pas. C'est vrai que dans le dossier, on a vu apparaître Patrick Balkany. On a vu apparaître un certain nombre d'interlocuteurs et on se demande ce qu'ils font là. Encore une fois, c'est à la justice de dire si effectivement il y a eu rétrocommission ou commission rétrocommission. Il y a un vrai sujet là, oui. Ça devrait être le principal sujet d'enquête de tous les magistrats et de tous les juges qui sont sur cette affaire, les policiers de la brigade financière.
Alors encore une fois, vous qui avez enquêté sur cette affaire, vous pouvez en faire un livre, donc c'est donc un travail de plusieurs heures, voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre quelle mouche a piqué Anne Levergeon, femme intelligente, compétente. Pourquoi elle veut absolument cette opération Uramine ? Qu'est-ce qui la pousse ? Qu'est-ce qui la fait courir vers ce qui s'avère un gouffre ?
Je vous parlais tout à l'heure de l'appel d'offres de l'Afrique du Sud pour 100 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est-à-dire que pour Areva, à obtenir ce marché, ça aurait été formidable. Anne Levergeon, son moteur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'elle, à partir du moment
où... Le pouvoir à tout prix, comme dit votre livre.
Et si j'ai voulu ce titre, c'est pas pour rien. C'est qu'elle a commencé très tôt, elle travaillait avec François Mitterrand. Elle a connu le pouvoir, elle est rentrée dans les arcanes du pouvoir, et pas avec n'importe qui, avec François Mitterrand.
Dont elle était une Sherpa.
Hein. Dont elle était la Sherpa, la secrétaire générale, l'une des Sherpas. Et donc elle a découvert le pouvoir à ce moment-là. Ensuite, elle l'a exercé. Hein, puisqu'elle a été nommée à la tête de la COGEMA, qu'elle a transformée avec plusieurs entreprises en Areva. Et puis elle s'est perdue dans le pouvoir, Anne Levergeon. Quand on a trop de pouvoir, eh bien on se perd. Anne Levergeon, le nucléaire français, on est à un niveau de chef d'État. C'est-à-dire que qui sont les interlocuteurs d'Anne Levergeon quand elle dirige Areva ? Ce sont des présidents de la République, des chefs de gouvernement. Et en plus, elle a pour elle toute une entreprise qu'elle gère, qu'elle dirige et qui lui donne des moyens d'action considérables. Eh bien, elle s'est perdue. Donc, quand elle décidait quelque chose, d'acheter Uramine, eh bien, il ne fallait pas qu'on l'en empêche. Et même l'État actionnaire n'a pas réussi à l'en empêcher. C'est vrai pour Uramin, mais ça a été vrai pour l'EPR finlandais, vous le citiez dans votre récit, qui est une catastrophe industrielle encore plus grave, encore plus, plus importante que l'affaire Uramin, puisqu'il y a un débord de 5 milliards d'euros pour cet EPR finlandais. Donc, dans le trou de caisse d'Areva, qui est de 10 milliards, c'est encore plus important. Eh bien, elle a décidé d'y aller quand même à Nauvergeon. Areva n'était pas une entreprise qui était censée construire des centrales nucléaires. Eh bien, elle a dit « on va le faire quand même ». Elle s'est trompée et c'est nous qui payons la facture encore une fois. Anne Lauvergeon, elle avait un ego énorme. Et elle doit toujours l'avoir d'ailleurs. Simplement, cet ego a fait perdre beaucoup d'argent à l'État. Et je citerai simplement un contrat de 20 milliards de dollars que vous rappeliez aussi en introduction de votre récit, qui a été perdu par la France contre la Corée du Sud, à Abu Dhabi. La Corée du Sud, ce n'est pas un grand spécialiste du nucléaire dans le monde. Eh bien, les Français ont réussi à perdre, parce que simplement deux dirigeants d'entreprises françaises, qui sont Anne Lauvergeon et Jean Guédonnex, le président d'EDF à l'époque, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire une équipe France gagnante face à, donc, notamment la Corée du Sud. Voilà ce qui pousse Anne Lauvergeon, c'est-à-dire des erreurs qu'elle ne veut pas assumer, parce que quand elle a quitté Areva, pendant des mois, elle a quand même expliqué qu'elle avait un très bon bilan. Ouais. Non mais voilà, ça a duré des mois. Puis les journalistes se sont mis à enquêter parce que quand même, il y avait un petit peu de... Il y avait des choses qui n'allaient pas dans le storytelling qu'elle voulait raconter, dans l'histoire qu'elle voulait refaire d'Areva. Voilà, donc il y a plein de raisons, mais voilà, quand on a trop de pouvoir, on se perd. Et je pense qu'il y a un sujet qui est la responsabilité de nos dirigeants, de nos élites, de rendre des comptes dans des cas de fiasco absolu. Parce qu'aujourd'hui, Areva, c'est des licenciements, c'est une histoire assez... assez catastrophique.
Et c'est probablement des salariés, ça a dû leur rester en travers de la gorge, des gens dont l'emploi est menacé à cause de résultats qui ne sont pas bons et à cause de stratégies industrielles qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Il y a cette dimension-là aussi.
Eh ben, il y a cette douce
les gens d'Areva qui y travaillent en ce moment.
Qui est la vraie dimension de l'affaire Areva, parce qu'elle a quand même expliqué à Anne Lauvergeon qu'elle avait fait grandir l'entreprise, elle avait embauché, si vous voulez, 28 000 personnes en prévision de l'activité qu'elle allait créer. On en était là. C'était beaucoup trop. La masse salariale d'Areva était complètement démesurée.
L'embauche préventive.
Voilà. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut effectivement réduire la voilure. Il y a des licenciements. Il y a 3 ou 4 000 en France licenciements qui sont en cours. Ou en tout cas de non-renouvellement de postes. Enfin voilà, il y a une réduction de l'activité qui est mondiale, mais qui se sent en France. Et c'est là le vrai sujet, encore une fois. Si c'était simplement son argent et puis qu'elle avait perdu son argent et ça ne regarderait qu'elle, ça ne nous intéresserait pas.
Alors, vous avez évoqué le fait qu'Anne Lauvergeon se soit expliquée. Voilà. On rappelle qu'une enquête judiciaire est en cours, on y reviendra. Elle se base, cette enquête judiciaire, sur le pré-rapport de la Cour des comptes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est paru en 2014. Il pointe les responsabilités d'Anne Lauvergeon, ce à quoi elle a répondu, entre autres, lors d'une conférence de presse en juillet 2014. On va l'écouter.
À trois reprises dans ce pré-rapport, il y a le mot « forte personnalité de la présidente ». Alors, je pense qu'effectivement, il faut une personnalité un peu dynamique pour créer un groupe. C'est vrai que de développer ce groupe, de devenir leader mondial du nucléaire, nécessite de ne pas être totalement une petite pâquerette. En même temps, c'est faire fi de la réalité et de la collégialité d'Areva, telle que j'ai pu la connaître entre 2001 et 2011. Donc, je crois que si on devait dire quelque chose, c'est une forte équipe chez Areva. Et quelque part, c'est peut-être en tant que seule femme dirigeante d'un grand groupe, ce qui en France reste un cas très isolé. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, on m'a tellement lié, personnalisé le côté Areva.
Qu'en pensez-vous ? Système de défense.
On se pince, non ?
Je sais pas, c'est à vous de me dire.
Moi, je me pince.
Qu'est-ce qui vous choque,
c'est complètement surréaliste. Ouais. La collégialité au sein d'Areva, il y a qu'elle qui l'a... Enfin, entre elle et elle, peut-être qu'il y avait une collégialité sur les décisions qui étaient prises. Puisque les gens, encore une fois, et il y a des traces écrites de tout cela, étaient... quand ils étaient consultés, pas écoutés. Donc ça, c'est un système de défense a posteriori qui ne tient pas une seconde. Enfin voilà, vous interrogez trois personnes de chez Areva et puis vous avez compris que tout cela est faux. Quant à, au fait d'être attaqué parce que c'est une femme, alors là, bon, là, c'est en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que non, enfin, peut-être, il y a des gens qui ne l'aimaient pas parce que c'était une femme, et ça, c'est possible. Moi, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le bilan. C'est les chiffres. Hein. On parle de chiffres. Là, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de prendre les bilans comptables d'Areva et de voir la situation. Donc, c'est un système de défense, si vous voulez. On ne peut pas mentir aux gens en permanence. C'est-à-dire que la communication, ça va un moment, et puis à un moment donné, l'armure se fend. Et là, dans le cas d'Anne Lauvergeon, là, personne n'a cru à son système de défense. Personne n'a cru, moi j'y étais à cette conférence de presse, si vous voulez, personne ne croyait à ce système de défense. Néanmoins, elle l'a maintenu. Alors, aujourd'hui, elle parle moins, on la voit moins dans les médias. Peut-être qu'elle va faire une contre-offensive, hein, mais ça ne tient pas une seconde. Non, ce n'est pas parce que c'est une femme que plein de journalistes enquêtent sur son bilan. C'est parce qu'elle a un mauvais bilan, simplement.
Alors, Patrick Balkany, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait là-dedans?
Je ne sais pas. En tout cas, il est là, oui, effectivement. Il traîne en Afrique.
Il se dit, dans la presse, qu'un industriel belge, Georges Forest, aidé par le député vert Patrick Balkany, aurait participé à des tractations secrètes entre Areva et l'État centrafricain. Alors, je ne parle pas de rétrocommission, hein, mais pour permettre à Areva d'exploiter les mines. Bon, d'accord, mais en contrepartie de quoi? Voilà.
Mais ça, c'est la grande question. Qu'a touché ou pas, ou qu'aurait touché Patrick Balkany pour ses services en Centrafrique? Ça, moi, j'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus. J'ai pas enquêté sur le cas Patrick Balkany, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on le voit traîner avec Georges Forest, qui est un mania de la mine en Afrique. On le voit Saïf Durbar, que moi j'ai rencontré, hein, qui était le conseiller du président Bozizé en Afrique du Sud, a vu Patrick Balkany. Il était là. Alors, effectivement, ça pose la question de pourquoi ce député français, on sait que les députés font un travail de lobbying comme ça un peu partout dans le monde. Dans son cas, il y a un vrai sujet sur sa présence en Centrafrique. Oui, il y a un vrai sujet. Mais je n'ai pas la réponse, malheureusement, à vous apporter sur ce sujet-là.
La suite judiciaire, maintenant. Alors, c'est quoi le calendrier judiciaire? Comment ça va se passer maintenant?
J'en sais rien. Vous avez vu que on parle beaucoup aussi du mari d'Anne Lauvergeon, dont le nom apparaît au travers de l'affaire Uramine, et dont, si vous voulez, ce monsieur qui s'appelle Olivier Frick, qui faisait des affaires avec Areva pendant que sa femme était à la direction de cette entreprise. Il y a un problème. Hein, on a Olivier Frick qui, à un moment donné, à la tête d'une entreprise, Agave Partner, qui va prendre 6% de participation dans une filiale Areva Solar d'Areva. Ouais. Donc vous avez le mari de la patronne, hein, qui rentre au capital d'une filière d'Areva, entreprise publique, que sa femme dirige.
Ça s'appelle un conflit d'intérêt.
Ça s'appelle un conflit d'intérêt. Il y a un problème. Pareil. Donc, les suites judiciaires, elles peuvent être multiples. Il y a plein de sources d'enquête pour les policiers. Donc après, voilà, l'enquête suit son cours. Elle est assez longue. Hein. Moi, je suis assez surpris de ne pas voir plus de mise en examen dans ce dossier.
En même temps, il y a beaucoup de ramifications.
Ce que moi, j'ai compris en un an, en même temps, c'est peut-être suffisant, non? Il y a au moins peut-être entre 5 et 6 chefs d'inculpation qui pourraient quand même tenir un minimum la route. Alors peut-être que les policiers travaillent et que tout ça va arriver. Peut-être qu'il y a un problème de moyens aussi de la justice, de travailler, etc. sur tout cela. Si effectivement il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de sujet judiciaire dans l'affaire Uramine, je ne sais pas où il va y avoir des sujets judiciaires. Parce que là, vous l'avez raconté, il suffit simplement de mettre bout à bout les éléments du récit, de les mettre en perspective, de regarder les erreurs qui ont été faites. On est quand même dans une situation où la justice a son mot à dire et il peut y avoir effectivement un certain nombre de suites à tout cela.
Et il y a aussi le fait qu'on enquête là sur quand même ce qui est le fleuron industriel de la France avec des enjeux incroyable, l'enjeu nucléaire. On est la première puissance nucléaire civile au monde. Si on fait le rapport entre le nombre d'installations et la grandeur du pays, du territoire, on est le premier pays de construction nucléaire civile. Donc on imagine les enjeux. On va s'arrêter là, Jean-Louis Pérez.
Mais c'est ça qui est un peu triste, juste pour finir, parce que vous venez de le dire. En fait, le nucléaire, on est pour ou contre le nucléaire, mais c'était une très grande filiale française avant d'être aujourd'hui aux abois.
Merci infiniment, Jean-Louis Pérez. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui à Areva et le dossier Uramine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le combat des Contis.